Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. On imagine souvent les femmes du Moyen-Âge comme entièrement soumises à l'autorité des hommes, pères, maris, prêtres, des femmes auxquelles on ne reconnaîtrait que le statut de vierge, d'épouse ou de veuve. Pourtant, au hasard des chroniques médiévales, on rencontre régulièrement des femmes de toutes conditions qui échappèrent à cette domination masculine. Il y eut même des femmes chevaliers, des chevaleresses. En la matière, la seconde moitié du XIVe siècle constitue une époque charnière. L'état de guerre permanent, entraînant fréquemment le départ ou la mort des hommes, oblige les femmes à agir par elles-mêmes. En 1386, année où se déroule le fameux duel judiciaire pour l'honneur de Marguerite de Carrouges, relaté dans le film Le Dernier Duel de Ridley Scott, un film qui sort en salle aujourd'hui, la chevaleresse par excellence, une certaine Jeanne d'Arc, est à 25 ans de voir le jour.
Roland sent que la mort l'entreprend, et dans la tête et le cœur lui descend. Dessous un pin, il va courant, et sur l'herbe verte s'allonge, plaçant sous lui épée et olifant, et regardant vers la grande Espagne. Ainsi fait-il parce qu'il veut que Charlemagne et tous ses soldats de son armée disent que le noble comte est mort en conquérant. Il bat sa coulpe de tous ses péchés et pour leur rémission offre à Dieu son gant.
Ces vers sont extraits de la chanson de Roland, œuvre du tout début du XIIe siècle. C'est dans ce texte que la femme commence à faire une timide apparition dans la chanson de geste. Une chanson de geste est une chanson qui relate, qui raconte les exploits de chevaliers. En l'occurrence, cette première femme, c'est Aude, la fiancée de Roland. En apprenant par Charlemagne la mort héroïque de ce dernier à Roncevaux, elle tombe morte, terrassée par le chagrin. Ne plaise à Dieu, à ses saints, à ses anges, qu'après Roland, je demeure vivante.
Elle pâlit, elle tombe aux pieds de Charlemagne. Elle est morte sur le champ. Que Dieu ait pitié de son âme. Les barons français la pleurent. Et la plaigne.
Donc une brève apparition aussi timide que tragique. Dans les chansons de geste qui suivent, la femme n'apparaît jamais encore que comme épouse ou mère de chevalier. Et c'est avec Chrétien de Troyes que la femme entre dans le monde viril de la chevalerie et que la littérature courtoise prend son essor. Désormais, chaque chevalier doit avoir la dame de ses pensées. Chrétien de Troyes, lui, reprend le vieux mythe celtique du roi Arthur et de la reine Guenièvre, pour laquelle le chevalier Lancelot, l'un des preux de la table ronde, éprouve un amour interdit. Lancelot accepte toutes les épreuves qu'exige sa dame, y compris de s'asseoir en armes dans la charrette d'un manant, ce qui pour un chevalier est infamant. Idem dans le roman de Tristan et Iseult, tout entier consacré à l'amour humain. Iseult est mariée au roi Marc, mais Tristan éprouve pour elle une invincible passion et se laisse mourir quand il s'en croit abandonné. Désormais, les femmes font belle figure dans la chevalerie. Dans les tournois, chaque chevalier joute pour sa dame, portant à sa lance l'enseigne, entendez par là le foulard ou la bannière, que sa belle lui a donnée. C'est pour elle qu'il accomplit guerres et prouesses. Mais ce n'est pas tout. Ce sont les dames et les jeunes filles, que l'on qualifie alors de pucelles, qui remettent ses armes au jeune bachelier lors de son adoubement. Le bachelier, c'est le bas chevalier, celui qui est prétendant à la chevalerie. Ce sont elles qui tendent sa lance et son écu au chevalier lorsqu'il part à la guerre. Elles qui arment le chevalier qui part défendre leur couleur au tournoi. L'usage apparaît bientôt d'élire une reine pour chaque tournoi. Elle préside la joute dans une tribune qui lui est allouée à côté de celle des juges d'armes. Elle y trône, entourée de ses deux demoiselles d'honneur. Le soir venu, c'est elle qui remet au meilleur chevalier son prix, généralement une pièce d'orfèvrerie agrémentée d'un joyau. L'amour courtois établit entre le jeune homme et son ami un lien semblable à celui d'un suzerain avec son vassal. Et dans cette relation particulière, la dame serait le suzerain et le chevalier son vassal. Mais la femme, en dehors des moments où elle remet armes et récompenses, a un rôle exclusivement passif. Même si aucun texte juridique ne lui interdit la guerre, elle n'a pas droit aux offices virils, à l'habit masculin. Elle est exclue de la chose militaire, n'a aucun droit de faire couler le sang, prérogative réservée aux porteurs de la puissance publique. La seule guerre que peuvent entreprendre les femmes et les clercs est une guerre spirituelle contre le péché. À la fin du XIVe siècle, un ouvrage d'Honoré Bonnet intitulé « L'arbre des batailles » précise que si les femmes titulaires de fiefs peuvent envoyer des contingents sur le champ de bataille, en désigner les chefs et en payer les soldes, en raison de leur sexe, elles ne sauraient être contraintes à paraître sur le champ de bataille. Un chapitre entier est consacré à cette même question dans le livre du gouvernement des princes, ouvrage à succès rédigé par le cardinal Gilles de Rome, l'un des principaux conseillers de Philippe le Bel. Comment la participation des femmes à la bataille est contre nature et raison ? Par participation, d'ailleurs, Gilles de Rome n'entend que le simple accompagnement du mari jusqu'au champ de bataille. Voici son explication.
Femme est la plus peureuse chose qui soit et de froide complexion. Si on doit combattre, il faut ôter les femmes de sa compagnie, car la peur est contagieuse même pour les preux et hardis. Donner grands coups et porter armes nécessite des reins solides, de fortes épaules et des bras robustes. Comme les femmes ont molle chair et défaut de force de corps, on ne doit pas les mettre à combattre.
Les femmes sont donc inaptes à la guerre, écrit Colette Beaune. Leur corps est faible, leur raisonnement limité, leur caractère peureux. De plus, la femme mineure perpétuelle ne saurait commander à des hommes adultes ni avoir sur eux la moindre autorité. Mais les conditions vont changer à partir du milieu du XIVe siècle avec les débuts de la guerre de Cent Ans. L'état de guerre permanent entraîne l'absence des hommes, temporaire ou définitive. Les opérations militaires qui deviennent fréquentes ne se déroulent plus dans des lointains pays, mais partout sur le territoire. L'insécurité est galopante. La crise démographique engendrée par la Grande Peste de 1348 fait que l'on manque de bras partout, pour cultiver comme pour combattre. Les longues captivités se multiplient et beaucoup de fiefs se retrouvent aux mains des femmes pour 10 ou 30 ans. Sur les champs de bataille, les bâtards doivent remplacer les fils légitimes, prisonniers ou morts, puis ce sont des paysans qui complètent les troupes insuffisantes, puis des mercenaires de tout poil. Et bientôt, dans cette société qui se militarise à outrance, les femmes elles-mêmes sont entraînées dans ce mouvement général. Certes, l'art de la guerre est considéré comme spécifiquement masculin. Il n'est pas question pour une femme de combattre en champ ouvert, bien sûr. Mais en temps de guerre, il y a bien d'autres choses qu'une femme peut faire. Défendre les forteresses, tenir un siège, nourrir, soigner. Le rang joue ici un rôle important. On ne donnera pas les mêmes responsabilités à une princesse qu'à une fille du peuple. L'écrivaine Christine de Pisan suggère dans « La cité des dames » que les princesses et les baronesses soient formées à la guerre dès leur jeune âge, bien qu'elles ne paraissent pas sur le champ de bataille où le combat, selon Christine de Pisan, doit rester un privilège masculin. Les femmes, écrit-elle, doivent être capables d'approvisionner les châteaux, de connaître chacun des hommes de la garnison et leurs capacités. À elles de donner courage à tous de bien faire, de maintenir l'ordre, de collecter les rançons ou de négocier les traités. Pour Christine de Pisan, en matière de guerre, il y a complémentarité entre l'homme et la femme, voire substitution si la femme est privée de mari. À Arrêtons-nous un instant sur Christine de Pisan. Elle est contemporaine de Marguerite de Carouge, puisqu'elle naît en 1364 et meurt en 1430. Pour mémoire, le duel judiciaire où est incriminée Marguerite de Carouge a lieu en 1386, alors que Christine de Pisan a 22 ans. Cette Christine de Pisan qui préconise l'éducation des femmes aux choses de la guerre n'est autre que la première femme de l'histoire de France à avoir vécu de sa plume. Alors que sa mère, écrit-elle, la voulait occuper de filas, comprenez la cantonnée aux travaux d'aiguille, son père, médecin et astrologue italien du roi Charles V de Valois, faisant fi des préjugés du temps, l'encourage au contraire à s'instruire. Entre le libre accès à la bibliothèque royale et la fréquentation des savants séjournant à la cour, Christine baigne dès l'enfance dans un climat de grande effervescence intellectuelle. Par bonheur, son père se montre également clairvoyant dans le choix de son époux, en lui désignant Étienne Chastel, notaire du roi. Il a 10 ans de plus qu'elle, mais leur union est un vrai mariage d'amour. Hélas, en 1389, Christine perd successivement son mari, emporté par la peste, puis son père. À 25 ans, la voici veuve et sans ressources, ayant à sa charge sa mère et ses 3 enfants. Que faire ? Avant tout, répondre aux besoins impérieux d'exprimer par écrit son chagrin et sa solitude. Bientôt, ce travail de deuil et d'écriture donne un recueil de poésie courtoise, le livre des 100 ballades, qui remporte un franc succès à la cour et vaut à l'écrivaine en herbe l'attention de riches protecteurs. Vivant désormais de sa plume, Christine diversifie sa production littéraire, rédige une biographie du roi Charles V, se lance dans un traité politique, ose aborder des thèmes militaires et religieux, bref, elle ne s'interdit aucun sujet. Dans La Cité des Dames, histoire d'une cité imaginaire gouvernée par des femmes, elle dénonce la misogynie de l'époque et l'inégalité des sexes. Elle donne une image positive du corps de la femme, regrettant qu'il ne soit associé qu'au péché ou à la maternité. Elle prône l'étude pour les femmes et vante les joies de l'indépendance. Cet ouvrage lui vaut d'être considéré de nos jours comme l'ancêtre du féminisme contemporain. Ce n'est donc pas un hasard si l'on retrouve sous sa plume l'idée que les femmes devraient être formées à la guerre dès leur jeune âge et remplacer les hommes si besoin est. Cela étant, dans son livre des faits d'armes et de chevalerie, écrit vers 1410, bien des hommes estimeront qu'elle a dépassé les bornes en se mêlant de guerre et de stratégie. En fait, à l'époque, 2 formes de guerre peuvent susciter une sorte de participation féminine. La première forme, ce sont les croisades. Le droit de la croisade est identique à celui du pèlerinage. Donc, puisque les femmes ont le droit d'aller en pèlerinage, elles ont le droit d'accompagner leur mari à la croisade. Nombre de princesses ou de reines accompagnèrent leurs époux, pour ne citer qu'elles, Aliénor d'Aquitaine, qui accompagne Louis VII le Pieux, ou Marguerite de Provence, qui va y accompagner Saint-Louis. Mais elles peuvent aussi y aller seules. Les musulmans d'ailleurs sont très choqués de voir des femmes combattre et ils accusent les chrétiens d'être tellement peureux qu'ils envoient leurs femmes à leur place. Régine Pernoud, dans La femme au temps des cathédrales, cite quelques pèlerines ayant pris les armes. Certaines n'hésitent pas à revêtir la cotte de maille, à coiffer le casque et à manier l'épée, comme les épouses des Normands de Sicile ou la margravine Ida d'Autriche, qui prendra 1101 les armes elle-même et partira pour la Palestine. La seconde forme de participation possible à la guerre pour les femmes, c'est le siège. Siège du château dont on a hérité, de la ville où l'on est né. Chacun, quel que soit son état, même l'artisan, a le droit de défendre sa vie, sa cabane, son village. Car le siège est une urgence durant laquelle toutes les règles du fonctionnement social sont mises entre parenthèses. La médiéviste Colette Beaune nous parle de l'héroïsme d'une certaine Pernelle dans ces circonstances. En 1418, le château de la Roche-Guyon à la frontière de Normandie est assiégé par les Anglais. Châtelaine, Pernelle de la Rivière, est veuve et mère de jeunes enfants. Son mari, Guy VI, a été tué 3 ans plus tôt à Azincourt. La forteresse, garnie de vivres et d'armes, résiste longuement. Mais quand il n'y a plus rien, les assaillants lui proposent d'épouser leur chef. Elle refuse d'épouser un traître et de mettre en danger les droits de son fils. Des mois après, quand il n'y a plus rien à manger et plus de secours prévisible, elle négocie une capitulation qui protège la vie de la garnison et de ses paysans et quitte à pied la Roche-Guyon pour rejoindre le camp du futur Charles VII. Elle sera gratifiée pour cela, deviendra dame d'honneur de la reine Marie d'Anjou, chargée d'enseigner le chemin de l'honneur aux autres dames de la cour. De 1418 à sa mort, Pernelle de la Rivière fut érigée en modèle. Il est très probable que Jeanne d'Arc, qui a vu la reine, ait aussi rencontré Pernelle. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit et raconté l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Oscar Vatter. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Je vous retrouve demain pour la seconde partie de mon récit « Au cœur de l'histoire » consacrée aux femmes dans la guerre au Moyen-Âge.